Chapitre 54. Tu divises le sable par ta puissance. Tu brises les têtes des dragons dans le désert. Oh oui, je te vois. Tu es comme une bête venue des dunes. Tu as les deux cornes de l'agneau, mais tu parles comme le dragon. La Nouvelle Bible catholique orange. Haran 2, 4. C'était la prophétie immuable. Les fils devenaient cordes, et c'était là une chose que Leto, à présent, semblait avoir connue toute sa vie. Son regard suivit les ombres du soir qui se déployaient sur le Tanzeruft. À 170 kilomètres au nord se trouvait la vieille faille, cette brèche profonde et sinueuse dans le mur du bouclier par laquelle les premiers Fremen avaient gagné le désert. Nul doute ne subsistait plus en Leto. Il savait désormais pourquoi il était là, seul dans le désert, empli du sentiment que tout ce territoire lui appartenait, qu'il devait se plier à sa volonté. Il sentait l'accord qui le liait à l'humanité dans sa totalité, et avec ce besoin profond d'un univers d'expérience qui ait un sens logique, un univers doté de régularités identifiables au sein de ses perpétuelles transformations. Je connais cet univers. Le ver qui l'avait conduit jusqu'ici avait obéi au simple tapement de son pied. Il s'était dressé devant lui et immobilisé comme un animal soumis. Leto, ayant sauté sur son dos, s'était servi de ses seules mains renforcées par la membrane pour découvrir le pli sensible de ses anneaux et le maintenir en surface. Dans sa course vers le nord, tout au long de la nuit, le ver s'était épuisé. Son usine interne de soufre et de silicate avait fonctionné au plus fort de sa capacité, et exhalé des bouffées d'oxygène qui, poussées par un vent arrière, enveloppaient l'étau de leur remous. Ces tourbillons brûlants l'étourdissaient parfois, et d'étranges perceptions occupaient alors son esprit. La subjectivité réflexive et circulaire de ses visions le renvoyait à la longue suite de ses ancêtres, et le contraignait à revivre des fragments de son passé terranique qu'il comparait ensuite avec les transformations de son être. Déjà, il pouvait sentir à quel point il s'était différencié d'un humain. Attiré par l'épice, il en absorbait goulûment la moindre veine qui se trouvait sur son passage, et la membrane qui le recouvrait n'avait plus rien d'une truite des sables, tout comme il n'avait plus rien d'un humain. Les cils s'étaient enfoncés dans sa chair pour former une créature nouvelle qui connaîtrait sa métamorphose dans les éons à venir. « Père, songea-t-il, tu as vu cela, et tu l'as repoussé. C'était une chose trop terrible à considérer. » Il savait ce que l'on croyait à propos de son père, et pourquoi on le croyait. Mouad Dib est mort de préscience. Mais Paul Atréide avait quitté l'univers de la réalité et avait pénétré vivant dans le Alam al-Mithal, fuyant cette chose que son fils avait osé tenter. À présent, seul demeurait le prêcheur. Leto s'accroupit dans le sable et fixa son attention sur l'horizon du nord. Le ver arriverait de cette direction, et sur son dos, il porterait deux cavaliers. Un jeune Fremen et un homme aveugle. Des chauves-souris pâles le survolèrent et inclinèrent leur route vers le sud-est. Elles n'étaient que des points dispersés dans le ciel assombri, mais aux yeux exercés d'un Fremen, la direction d'où elle venait révélait l'existence d'un abri. Pourtant, le prêcheur éviterait ce refuge. Son but était Shulok, où les chauves-souris sauvages n'étaient pas tolérées, de crainte qu'elles ne guident un étranger vers ce lieu secret. D'abord, le ver ne fut qu'un mouvement sombre entre le désert et le ciel septentrional. Matar, la pluie de sable qui s'abattait des hautes altitudes lorsque mourait une tempête, obscurcit ce spectacle durant quelques minutes. Puis le ver apparut plus nettement et plus proche. La ligne froide, à la base de la dune où se trouvait Leto, commençait d'accumuler son humidité nocturne. Les fragiles molécules d'eau parvinrent à ses narines et il ajusta la membrane sur sa bouche. Il n'avait plus besoin de se mettre en quête de mares et de trous d'eau. Les gènes de sa mère lui avaient donné le gros intestin hypertrophié des Fremen, capable de retenir l'eau de tout ce qui le traversait. Le distis vivant qui l'enveloppait absorbait et conservait les traces les plus infimes d'humidité. En cet instant même, tandis qu'il observait le désert, immobile, la partie de la membrane en contact avec le sable produisait des cils pseudopodes qui s'y enfonçaient, en quête de miettes d'énergie. Le regard de Leto ne quittait plus le ver qui approchait. Il savait que maintenant, le jeune guide n'avait pu manquer de l'apercevoir. Sur cette crête, il était un point facilement identifiable. À une telle distance, un Fremen ne pouvait donner la moindre explication à cette présence, mais c'était un problème que tout Fremen avait appris à résoudre. Tout objet inconnu était dangereux. Les réactions du jeune guide étaient aisément prévisibles, même sans le recours de la vision. Conformément à cette prévision, le ver changea légèrement de cap et se dirigea droit sur l'étau. Les vers géants constituaient une arme que les Fremen avaient utilisée bien des fois. Ils avaient joué un rôle décisif lors de la défaite de Shaddam IV devant Arrakeen. Ce ver, pourtant, n'obéit pas aux injonctions de son guide. Il s'arrêta brusquement à 10 mètres de distance, et il semblait bien qu'il fût décidé à ne pas fouler un autre grain de sable. Leto se leva. Il sentit les cils qui s'arrachaient brusquement au sable dans son dos. Libérant ses lèvres, il lança « Ashlan, Waz Ashlan !» Bienvenue, deux fois bienvenue. L'aveugle se tenait au sommet du ver derrière le jeune homme, une main posée sur son épaule. Il gardait la tête levée, le nez dressé comme s'il tentait de flairer l'origine de cette interruption. Le soleil couchant peignait d'orange son front. « Qui est-ce ? » demanda-t-il en secouant l'épaule du jeune homme. « Pourquoi nous sommes-nous arrêtés ?» Les embouts des filtres de son distille rendaient sa voix nasillarde. Le jeune homme contemplait Leto avec frayeur. Il dit enfin « C'est un voyageur isolé dans le désert. Un enfant, à en juger par son apparence. J'ai essayé de lancer le ver sur lui, mais le ver refuse d'avancer.
« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»«
Je croyais qu'il ne s'agissait que d'un voyageur égaré, » dit le jeune homme. « Mais c'est un démon. »«
Tu parles comme un vrai fils de Jakurutu, » dit Leto. « Et vous, sire, vous êtes le prêcheur. »
« Oui, je suis bien celui-là. »
Et il y avait de la crainte dans la voix du prêcheur. Enfin, il avait rencontré son passé.
« Ce lieu n'est pas un jardin, » reprit Leto. « Mais vous y serez les bienvenus cette nuit. »«
Qui es-tu ? » demanda le prêcheur. « Comment as-tu arrêté notre ver ?»
Il y avait dans la voix du prêcheur un air inquiétant de reconnaissance. Il évoquait les souvenirs de cette vision alternative, sachant qu'il risquait d'atteindre ici le bout de sa route.
« C'est un démon !» protesta son jeune guide.
« Nous devons fuir ce lieu si nous ne voulons pas que nos âmes soient... »«
Silence !» gronda le prêcheur.
« Je suis Leto Atreides, » dit Leto.
« Votre ver s'est arrêté parce que je le lui ai ordonné. » Le prêcheur s'enferma dans le silence.
« Allons, père !» reprit Leto. « Descendez et venez passer la nuit avec moi. » Je vous offrirai de ce nectar. Je vois que vous avez des gourdes d'eau et des fremkits. Nous partagerons nos richesses ici, sur le sable.
Leto est encore un enfant, dit le prêcheur. Et l'on dit qu'il est mort par la perfidie des Corino. Je n'entends nul enfant dans ta voix.
Vous me connaissez, sire, dit Leto. Je suis petit pour mon âge, tout comme vous l'étiez, mais mon expérience est ancienne et ma voix a mûri.
Que fais-tu ici, dans le désert intérieur?
« Bouji !» dit Leto.
Rien pour rien. C'était la réponse d'un vagabond Zensuni, d'un être qui agissait dans le repos, sans effort, en harmonie avec son environnement. Le prêcheur secoua l'épaule de son jeune guide.
« Est-ce bien un enfant, vraiment ?»«
Aïa !» dit le guide, apeuré, sans quitter Leto du regard. Un soupir énorme et vibrant s'échappa de la bouche du prêcheur.
« Non, » dit-il. «
C'est un démon qui a la forme d'un enfant, » dit le guide.
« Vous passerez la nuit ici, » dit Leto.
« Nous ferons ce qu'il dit, » fit le prêcheur.
Il ôta la main de l'épaule de son jeune guide et se laissa glisser le long d'un anneau jusque dans le sable, s'écartant d'un bond lorsque ses pieds touchèrent le sol. Se retournant, il ordonna «
Reconduis le ver au large. Il est fatigué et il ne nous ennuiera pas.
Il ne partira pas,
protesta le jeune homme.
Si, il partira, intervint Leto. Mais si tu tentes de t'enfuir avec lui, je le laisserai te dévorer.
Il se déplaça sur le côté, hors de portée de la perception du ver, et désigna la direction d'où ils étaient venus.
Va par là.
Le jeune guide brandit un aiguillon vers l'anneau qui se trouvait immédiatement derrière lui, tout en tirant sur l'hameçon qui maintenait un autre anneau ouvert. Lentement, le ver se mit à glisser dans le sable et tourna, obéissant à l'impulsion de l'hameçon. Le prêcheur, se guidant sur la voie de Leto, gravit la dune et s'arrêta à moins de 2 pas de lui. La rapidité et la sûreté de ses mouvements annonçaient un affrontement difficile. Là se séparaient les visions.
« Ôtez votre masque, père, » dit Leto.
Le prêcheur s'exécuta, rejetant en arrière son capuchon et libérant sa bouche. Leto l'examina. Il connaissait ses propres traits et il discernait nettement les lignes de ressemblance, comme soulignées par la lumière. Des lignes qui se fondaient en une réconciliation indéfinissable, en un cheminement de gènes aux frontières imprécises, mais qui ne pouvaient échapper à l'examen. Ces lignes venaient des jours anciens et bourdonnants, des jours éclaboussés d'eau, des mers miraculeuses de Caladan. Mais en cet instant, en ce point précis d'Arrakis, elles allaient se diviser, tandis que la nuit attendait de se déployer entre les dunes.
« Eh bien, père, » dit Leto.
Il regarda sur leur gauche le jeune guide qui revenait vers eux après avoir quitté le ver.
« Mouzein !»
lança le prêcheur en agitant violemment la main. « Cela n'est pas bon. »«
Koulij Zein !»
répliqua doucement Leto. « Mais c'est tout ce que nous aurons jamais de bon. » Et il ajouta en Tchakopsa, le langage de bataille des Atréides,
« Ici je suis, ici je demeure. Nous ne pouvons oublier cela, père. »
Le prêcheur ploya les épaules et ses mains se portèrent à ses orbites vides, en un geste oublié depuis longtemps. « Je vous ai donné le regard de mes yeux autrefois, » dit Leto, « et j'ai pris vos souvenirs. Je connais vos décisions et j'ai été en ce lieu où vous vous cachez. »
« Je sais cela, » dit le prêcheur en baissant les mains. « Resteras-tu ?
Vous m'avez donné le nom de l'homme qui avait écrit ces mots sur sa cotte de mailles.
J'y suis, j'y reste. »
Le prêcheur eut un profond soupir.
« Jusqu'où es-tu allé, dans cette chose que tu as entreprise sur toi-même ?
« Ma peau n'est plus la mienne, père. »
Le prêcheur haussa les épaules.
« Je sais donc comment tu m'as retrouvé. »
« Oui. J'ai attaché ma mémoire à un lieu que ma chair n'avait jamais connu. J'avais besoin d'un soir avec mon père. »
« Je ne suis pas ton père. Je ne suis qu'une mauvaise copie, une relique. »
Le prêcheur tourna la tête vers le guide qui approchait.
« Je ne suis plus les visions de mon avenir. »
Et comme il achevait sa phrase, l'obscurité s'abattit sur le désert. Les étoiles jaillirent de l'horizon, et Leto, à son tour, se tourna vers le guide.
« Woba Kulkuar !»
lui cria-t-il.
« Salutations !»«
Suba Kunnar !»
répondit le jeune homme. Dans un chuchotement rauque, le prêcheur déclara
« Ce jeune Hassan Tariq est dangereux. »«
Tous les bannis sont dangereux, » dit Leto. « Mais pas pour moi. » Il s'exprimait sur un ton neutre.
« Si telle est ta vision, je ne la partagerai pas, » lui dit le prêcheur.
« Peut-être n'avez-vous pas le choix. Vous êtes la Filakika, la réalité. Vous êtes Abu Dour, le père des routes indéfinies du temps.
« Je ne suis rien de plus qu'un appât dans un piège, » dit le prêcheur d'un ton amer.
Et Alia a déjà avalé cet appât. Mais je n'en aime guère le goût.
« Tu ne peux faire cela !» lança le prêcheur.
« Je l'ai déjà fait. Ma peau n'est plus la mienne.
Peut-être n'est-il pas encore trop tard pour toi. »
« Il est trop tard. »
Leto pencha la tête. Il pouvait entendre Hassan Tariq gravir le flanc de la dune. Il approchait, se guidant sur le son de leur voix.
« Salutations, Hassan Tariq de Chouloc, » dit Leto.
Le jeune homme s'arrêta un peu en dessous de lui. Il n'était qu'une ombre dans la clarté des étoiles. Dans l'inclinaison de ses épaules, le port de sa tête, Leto pouvait lire son indécision.
« Oui, dit-il, je suis celui qui s'est échappé de Shulok. Lorsque j'ai entendu, commença le prêcheur.
Puis il s'interrompit et acheva.
« Tu ne peux faire cela !»«
Je le fais. Qu'importe si vous devenez aveugle une seconde fois. »
« Tu crois que je crains cela ?» demanda le prêcheur.
« Ne vois-tu pas ce guide habile qu'ils m'ont procuré ?»«
Je le vois, dit Leto, et une fois encore il fit face à Tarik. « Ne m'as-tu pas entendu, Hassan ?»«
Je suis celui qui s'est échappé de Shulok. »«
Tu es un démon !» balbutia le jeune homme.
« Je suis ton démon, le reprit Leto. Et toi, tu es mon démon. »
Il sentit alors que la tension montait entre lui et son père. Autour d'eux s'était déployé un théâtre d'ombre, une projection de formes inconscientes. Et il percevait les souvenirs de son père, une sorte de prophétie à rebours qui extrayait des visions de la réalité familière de cet instant. Tarik devina cette bataille de visions. Il se laissa glisser en arrière de quelques pas sur la pente.
« Tu ne peux contrôler le futur, » dit le prêcheur.
Et c'était comme s'il peinait sous un fardeau énorme.